Bienvenue sur Radio RKS 97 FM et Radio RKS.fr. Flo au micro et un grand merci à Kétil pour la réalisation du programme qui va suivre. Merci Kétil. Nous nous retrouvons aujourd'hui une nouvelle fois dans les locaux de la Croix-Rouge à Grenoble afin de rencontrer celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans le domaine de l'action sociale et de la solidarité. Après avoir évoqué l'action sociale et le SAMU social sur Grenoble et le département isérois, nous allons aujourd'hui nous pencher sur les actions relatives au secourisme et les formations au premier secours, l'un des fers de lance de la Croix-Rouge. Et pour parler de ceci, j'ai deux personnes avec moi autour de la table, en les personnes de Laurent Bourque et Gauthier Sayeta. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien écoutez, vous allez commencer par vous présenter, Laurent.
Eh bien, toujours responsable de la communication, toujours aussi ravi de vous accueillir, et également secouriste depuis quelques années.
Depuis quelques années, très bien. Et Gauthier.
Bonsoir à tous. Donc, moi je suis le directeur local de l'urgence et du secourisme à Grenoble. Je suis secouriste, formateur de premier secours, et cela depuis plus de 10 ans maintenant.
Plus de 10 ans, ah oui, une petite expérience.
Je vous ai trouvé un expert aujourd'hui.
Ouais, on a un petit genou qui va nous parler de son expérience toute jeune en la matière. Bah, super, très bien. J'ai hâte qu'on commence. D'ailleurs, vous allez commencer par définir un petit peu là, vos rôles. Qu'est-ce que vous y faites à la Croix-Rouge en tant que bénévole, Gauthier?
Alors, mon rôle, c'est d'être responsable déjà.
Oui, de toute évidence.
Le DLUS, il va, comme mon homologue que vous avez rencontré, oui. Donc Lucien Rorato, qui lui est DLAS,
tout à fait.
Assurer l'ensemble des activités liées à l'urgence et au secourisme. Donc quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. pour l'activité de secourisme, ça va se décomposer en deux grandes étapes. La première, c'est la formation. La formation interne de tous les bénévoles de l'unité locale. Mm-hmm. Donc, je suis responsable de former les secouristes, bien entendu, mais aussi les bénévoles de l'action sociale. Mmh. Pas simplement pour des formations liées au secourisme.
D'accord.
C'est pas forcément moi qui vais les organiser, qui vais les former, mais je vais être chargé de m'assurer que tous les bénévoles de la Croix-Rouge ont accès à un ensemble de formations, dont certaines sont obligatoires, font partie d'un parcours d'intégration. D'accord. De nos nouveaux bénévoles.
D'accord.
Donc ça déjà, ça prend du temps.
J'imagine, parce que ça fait dru, comme ça fait beaucoup d'informations là.
Exactement. L'autre partie dans le secourisme et cette formation, c'est de former ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire tous les autres qui ne font pas partie de la Croix-Rouge.
Ouais.
C'est particulièrement connu au travers des PSC1, donc qui est la formation d'une journée de premier secours civique, obligatoire dans un certain nombre de professions. Mmh. Et donc, pour cela, on s'adresse à n'importe qui est volontaire. Ces formations, par contre, sont payantes. Il y a tout un tas d'autres formations disponibles dans le domaine du premier secours que l'on peut faire. Les Grenoblois ont déjà pu nous croiser dans la rue, dans les centres commerciaux, où on proposait des initiations, par exemple.
Très bien, très bien. On y reviendra tout à l'heure plus en détail, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense, sur le sujet.
Ouais. Tout à fait. Mmh. Le dernier volet, et non des moindres, bien qu'en ce moment il était un petit peu impacté par cette crise, comme tant d'autres activités,
bien sûr.
C'est les DPS, ce qu'on appelle les dispositifs prévisionnels de secours. C'est-à-dire que pour chaque manifestation qui a lieu sur l'espace public ou l'espace privé, si on organise un cross, si on organise un match de foot, si on organise une soirée dans une salle des fêtes, à partir d'un certain nombre de personnes, à partir de certaines activités potentiellement risquées, l'organisateur est tenu, en concertation avec la mairie, la préfecture, une organisation sportive, de mettre en place un service de secours. Un service de secours en plus de celui des secours publics.
D'accord.
L'idée, c'est, puisqu'il y a une manifestation à un instant T, il ne s'agit pas de surcharger l'activité des sapeurs-pompiers, qui ont fort à faire dans le secours du quotidien. Nous, on agit donc pour du secours qui est un petit peu particulier pour ce genre d'événement. C'est ça qu'on appelle un DPS. Sur un instant T, c'est la Croix-Rouge qui gère l'ensemble des secours.
D'accord.
Pour cela, on va se mettre d'accord avec le SAMU, le centre 15, on va se mettre d'accord aussi avec les pompiers pour signaler qu'on est là et qu'on est là pour les aider. On va signaler en les appelant, en leur déclarant la manifestation, en leur déclarant combien nous, Croix-Rouge, on met en place de secouristes, quels moyens on met. On va pouvoir notamment évacuer nous-mêmes les victimes vers les centres hospitaliers si jamais il y avait besoin.
D'accord.
Mais de base, on gère tout à un endroit. Donc cette activité, c'est notre cœur de métier, de métier de volontaire de la Croix-Rouge. C'est le moyen qu'on a aussi de financer l'ensemble des activités de la Croix-Rouge. C'est normalement un secteur qui est très, très vif, hein, notamment à Grenoble où on a beaucoup d'activités, beaucoup d'étudiants, beaucoup de manifestations sportives. Donc normalement, ça marche bien et ça nous occupe beaucoup.
Oui.
À côté de ça, il y a les activités qui d'habitude, on en a assez peu. De temps en temps, c'est ce qui concerne l'urgence. Ouais. C'est le U dans DLUS.
D'accord.
Et donc ça, l'urgence, bah, c'est tout le temps ou jamais. En tout cas, ça arrive. En ce moment, ça arrive tous les jours, du coup.
D'accord.
Puisque nous sommes dans une situation d'urgence en ce qui nous concerne.
Oui, permanente.
Exactement.
On y reviendra, ça aussi.
Voilà. Donc,
forcément, il faudra qu'on en parle. Très bien. Ben, une réponse très, très complète, déjà, ma foi. Ça donne de bonnes pistes pour la suite de la conversation. Laurent, quand même, tu vas nous rappeler un petit peu quel est le reste de ton activité. Tu nous as dit ce que tu faisais, mais qu'est-ce que... Redéfinis-nous ce que tu fais à la Croix-Rouge. Quelles sont tes missions?
Alors moi, je viens en appui de Gauthier et de Lucien, donc des directeurs locaux et de nos élus, pour les aider à faire connaître un peu la Croix-Rouge à travers des campagnes de communication, les aider sur leur stand de gestes à premier secours pour que l'image de la Croix-Rouge soit bien représentée. Et comme je suis secouriste, je travaille aussi pas mal à la DLUS avec Gauthier, donc voilà, j'ai un peu ces deux casquettes en même temps.
Très bien, parfait. Bon, et ben on va avoir pas mal de choses à apprendre ce soir, parce que je dois vous l'avouer, moi je suis un peu novice en la matière, je connais très très peu de choses, donc je suis passionné d'avance par tout ce qui va se dire. Gauthier nous a déjà donné plein de choses de ce qui va se passer, de ce qui se passe au sein de la Croix-Rouge en termes de secourisme. On va revenir un petit peu sur les différents points, les différentes missions, etc. Et commençons d'ailleurs par les bénévoles. À partir du moment où on est bénévole à la Croix-Rouge, donc du coup on a un parcours de formation au secourisme. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Gauthier. Du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des paliers? Comment ça se met en place, ça?
Alors, exactement. L'idée, c'est qu'on recrute donc des volontaires. Mmh. Des gens qui ont envie de donner du temps pour les autres, pour la Croix-Rouge. L'idée, c'est que les volontaires de la Croix-Rouge doivent avoir une base commune, une base de connaissance de ce qu'est leur association, comment elle fonctionne.
Bien sûr.
Et d'être chacun capable de répondre à des différentes situations d'urgence. Ces situations d'urgence, évidemment, elles peuvent être de nature secouriste. Donc, tous les nouveaux volontaires de la Croix-Rouge doivent passer une initiation aux gestes qui sauvent, notamment. Ils doivent concrètement apprendre à réaliser une PLS, faire un massage cardiaque et contrôler une hémorragie.
D'accord.
Ça, c'est l'idée de base. Donc, il faut que tout le monde passe par là.
Ça, ce sont les fondamentaux, c'est la base, en fait.
Voilà, exactement.
De la formation d'un bénévole, d'un volontaire.
Tout volontaire Croix-Rouge doit être capable de venir en aide à un citoyen.
D'accord.
On va aussi les former à la connaissance de la Croix-Rouge, puisqu'ils représentent cette Croix-Rouge. Ils ne sont plus monsieur machin, madame truc. Ils sont volontaires de la Croix-Rouge. Ils portent l'uniforme. Ils doivent donc le représenter. Et pour cela, eh bien, il faut qu'ils le connaissent. Il faut qu'ils en connaissent les principes, l'histoire et son fonctionnement. Ça, c'est une formation qu'on appelle Croix-Rouge Bienvenue, donc on essaie de mettre en place très rapidement pour que les bénévoles sachent dans quoi ils s'engagent et comment ça va se passer.
Bien sûr.
Typiquement, ça va passer par connaître son responsable d'activité, savoir qu'il y a un DLAS, savoir qu'il y a un DLUS.
Bien sûr.
Cette organisation est très propre à la Croix-Rouge, puisque la Croix-Rouge est une et unique. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. C'est important parce que nos bénévoles peuvent être très mobiles. Ils peuvent s'engager à Grenoble, terminer à Lyon et puis un jour encore se déplacer. Mais ils auront l'avantage avec ces formations de les retrouver partout. Il y a un autre DLUS à Échirolles, il y a un autre DLUS à Lyon, etc.
Il y a quand même des points communs pour ne pas être perdu.
Exactement.
Ça m'a l'air d'être très ramifié, mais du coup, avec des points communs, si on part d'une région pour aller à l'autre, même à l'international, du coup, est-ce que ça se passe de la même façon? Puisque bon, la Croix-Rouge, on l'avait évoqué lors de la première interview. Laurent nous avait fait un peu un topo sur la Croix-Rouge, ce qu'était la Croix-Rouge aujourd'hui en 2020. C'est vrai, la Croix-Rouge de Red Cross, c'est dans le monde entier, bien évidemment. Du coup, même à l'étranger, ça se passe de la même façon, Laurent?
Alors, ça se passe pas exactement de la même façon, mais le cœur est là. C'est-à-dire que dans l'ensemble des Croix-Rouges, dans le monde entier, on va retrouver les mêmes principes, la même volonté d'action. Et pour intervenir à l'international, notamment, on est géré par des instances internationales. On a une fédération qui regroupe toutes les Croix-Rouges du monde et qui va coordonner l'action. Donc, on se comprend, disons, on a un langage commun qui est le langage Croix-Rouge.
D'accord.
Après, la structure hiérarchique n'est pas forcément la même partout.
Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et du coup, bah, au niveau, pour revenir à ces volontaires du coup, qui suivent ce, ce parcours de formation pour être à la page tous les uns avec les autres et puis bah, avec leur DLUS, DLAS, peu importe dans le domaine d'activité. Après, est-ce qu'il y a des choses plus poussées ? Est-ce qu'il y a des formations qui sont un peu plus... Enfin, je sais pas, qui peuvent être optionnelles, qui ne sont pas obligatoires ? Est-ce qu'on peut approfondir cette formation-là au sein de la Croix-Rouge ?
Oui. Le parcours d'intégration est, est une première étape pour comprendre ce qu'on peut faire, voire découvrir aussi d'autres choses.
Bien sûr.
On peut rentrer à la Croix-Rouge en voulant faire du secourisme et en terminant par les maraudes, ou l'inverse, qui a été par exemple mon propre cas.
D'accord, ok.
Ça c'est très intéressant parce qu'il faut pouvoir découvrir plein de choses. Un grand nombre de nos secouristes sont aussi des maraudeurs.
D'accord, ok.
Ce qui fait que on va trouver un catalogue de formations très épais à la Croix-Rouge pour nos bénévoles. Il en existe beaucoup, qui sont donc grossièrement découpés entre ce qui relève de l'action sociale et de la du secourisme, avec au milieu l'urgence. L'urgence qui est l'affaire de tous les bénévoles.
D'accord.
On va trouver donc certaines formations. Alors, on adore les sigles, hein, donc comme ça je les balance d'un coup. C'est ce qu'on appelle le TCAU, le TCEO. Ce sont des formations de tronc commun d'encadrants. D'accord. De l'urgence, d'encadrant opérationnel, par exemple.
D'accord. Okay.
Donc il y en a plein de tout genre. On va trouver, par exemple, des formations de management aussi, puisqu'il y a une formation pour devenir DLUS, pour devenir DLUS adjoint.
Ce qui paraît pas idiot, hein, vu les ramifications et la taille de la Croix-Rouge, ça paraît pas idiot du tout, en l'occurrence.
Exactement. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la Croix-Rouge repose sur ses volontaires, en grande majorité. L'idée, c'est qu'on veut accueillir le maximum de personnes avec toujours cette promesse que venez avec votre énergie, venez avec votre motivation, venez avec vos idées et que nous, on va vous accompagner pour réaliser au mieux votre volontariat.
D'accord.
Quelqu'un qui a envie de prendre des responsabilités à la Croix-Rouge peut tout à fait, sans avoir nécessairement le bagage scolaire ou l'expérience professionnelle, qu'importe. La Croix-Rouge va vous aider au travers de formations qui ne délivrent pas forcément le titre, mais qui permettent un accompagnement pour mieux centrer quels sont les rôles de chacun. C'est donc le cas pour les DLUS, pour les DLAS, mais c'est, si on revient un petit peu au secourisme, le cas aussi quand on veut former des chefs d'intervention, qui sont l'équivalent de chefs d'agré pour les sapeurs-pompiers.
D'accord.
Il y a une formation spécifique pour ça, pour apprendre toute la législation, pour apprendre des compétences particulières, et notamment ce qui relève du management.
D'accord.
Et rarement acquis à la base pour les gens. Ça, d'accord. C'est quelque chose que la Croix-Rouge permet de découvrir et d'accompagner dans la pratique de chacun.
Super, c'est très, très, très complet tout ça. Et du coup, ça, c'est fait en interne à la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui propose ces formations. Ce n'est pas en externe sur d'autres instituts ou d'autres. C'est tout la Croix-Rouge qui s'auto-manage, on va dire ça comme ça, du coup. Pour,
au maximum, la Croix-Rouge essaie de, de gérer ensemble. Avec des autorisations spécifiques, puisque c'est particulièrement vrai dans le domaine du secourisme, puisque nous sommes des acteurs liés au secours public, il y a beaucoup de règlements, de lois qui encadrent nos pratiques, et en fait, on nous impose, dans nos pratiques liées au dispositif prévisionnel de secours, d'avoir des encadrants et de proposer des formations pour cela, qui sont faits en accord avec l'État.
D'accord, ok. Et du coup, enfin, aujourd'hui, là, dans tout ce qui ressort, c'est que la Croix-Rouge aussi, la légitimité, là, on parlait tout à l'heure des événements avec ce fameux DPS, etc., qui, où vous allez intervenir, alors à plus ou moins grande échelle, j'imagine, selon la taille de l'événement, j'imagine que c'est lié, bien évidemment. Enfin, voilà, il faut quand même qu'il y ait quand même un sacré rapport de confiance entre les autorités légales, les pompiers, le SAMU, j'imagine aussi, le SMUR, en tout cas, parce que vous êtes en présentiel sur des... contrairement aux pompiers ou aux SAMU, etc., qui eux vont venir en cas d'urgence en renfort. C'est pour ça que vous êtes en lien. On y revient toujours avec la Croix-Rouge. Il y a cette histoire de lien avec, avec tout le monde. Vous êtes en présentiel sur ces événements-là.
Là, en prévision.
Oui, en prévision.
Quelque chose,
au cas où.
Prépositionnement.
Ouais,
exactement.
Très bien. Parfait. On a parlé des volontaires. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être autre chose dont on n'a pas parlé concernant les volontaires. En tout cas, ce fameux parcours de formation à plus ou moins grande échelle, du coup, entre cette base commune et puis après ces options, si on veut prendre un petit peu de galon dans l'association en elle-même. On a parlé des DPS, du coup, et puis de vos interventions sur les événements. Il y a autre chose, du coup. pour ceux qui ne sont pas volontaires, on parlait tout à l'heure de formation payante, du coup, ça s'adresse à qui, justement? Si moi, demain, voilà, j'ai envie de faire une formation de secourisme sans m'engager dans la Croix-Rouge, comment est-ce que je m'y prends? Et surtout, dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des contrats de partenariat, je ne sais pas, avec des entreprises, avec des organismes, avec des... comment est-ce que ça se passe?
Alors, il y a plusieurs choses. Si vous vous réveillez un matin en disant je veux être formé au groupe MEGES, je veux gérer des urgences, je veux apprendre à faire un massage cardiaque. La PLS, je l'ai vue vaguement il y a 20 ans, je ne m'en rappelle plus, comment on fait? Ça va passer par une petite recherche sur Internet, où vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'acteurs capables de vous former au PSC1. Il en existe une liste par département.
D'accord.
Vous allez trouver ceux qui ont la possibilité de le faire, puisque tout cela est encadré par le ministère de l'Intérieur.
J'imagine.
Donc, vous allez pouvoir trouver la Croix-Rouge, mais pas seulement. Il existe d'autres associations de secourisme, la DPC, la FF2S, la Croix-Blanche, etc. Il en existe plein. Il faudra ensuite vous rapprocher d'une unité locale, on parle de la Croix-Rouge, d'une antenne locale pour certaines associations.
D'accord.
Qui ont des sites internet, qui ont des pages sur les réseaux sociaux, où du coup, vous prendrez un rendez-vous, vous vous inscrirez sur une session, qui donc vous sera fait payer au départ, pour ces formations.
D'accord.
Il existe plein de petites formations.
D'accord.
Mais de base, si vous avez envie, vous pouvez totalement, sans aucune contrainte.
C'est ouvert à n'importe qui, absolument.
C'est ouvert à n'importe
qui. C'est sur ses deniers personnels quand on le fait à titre personnel. Donc, par contre, il y a certaines professions qui nécessitent, vous l'évoquiez tout à l'heure, Gauthier, il y a certaines professions. Alors, on parle de quel type de profession? Donc, quel type de profession est-ce que cette formation est obligatoire?
Eh bien, par exemple, les enseignants. Les instituteurs, les institutrices doivent passer cette formation. Bien souvent, et là, ça dépend beaucoup des départements, mais les rectorats ont à disposition leur propre formateur ou peuvent le faire par une autre association, peuvent le faire faire par les sapeurs-pompiers aussi, qui sont tout à fait capables de faire la formation. Donc là, ça dépend un petit peu. Dans le milieu professionnel, il y a en général aussi des formateurs présents. Alors, c'est un tout petit peu différent, puisque dans le milieu professionnel, on va parler de SST, Secourisme Sauveteur du Travail.
D'accord.
Qui est une formation qui ressemble un petit peu au PSC1, mais qui est vraiment axée sur le milieu professionnel et sur la prévention des risques.
D'accord.
Ça, c'est à voir avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais pour ce qui est du PSC1, il faut se rapprocher en fait d'un organisme capable de vous faire passer cette formation.
D'accord.
Okay. Du coup, pour la Croix-Rouge de Grenoble, je vais rappeler du coup le site internet 38.croix-rouge.fr qui permet du coup de s'inscrire sur ces formations PSC1 pour l'unité locale de Grenoble et même d'ailleurs pour l'intégralité du département de l'Isère.
Oui, d'accord. Donc c'est même c'est super simple. On peut le faire directement en ligne en cherchant un petit peu. On trouve ça directement sur le site de la Croix-Rouge de l'Isère.
Oui, voilà, directement.
Très bien, parfait. Un ordre d'idée, je ne sais pas si c'est tabou, mais ça coûte combien une formation comme ça à la Croix-Rouge?
C'est 61 euros.
Oui, bon, ça va, c'est pas non plus... c'est pas le bout du monde.
Et souvent, vous pouvez vous renseigner, il y a beaucoup d'aides qui sont apportées, des fois par des associations, parfois par le département, par la région.
C'est ce que j'allais dire, ça doit rentrer dans le cadre de partenariats et de développement à la formation, etc. Quand même, parce que c'est quand même une riche expérience que d'avoir cette expérience-là, justement. Donc ça doit rentrer dans des cadres, j'imagine.
Pôle emploi peut aider là-dessus. Il y a des aides pour les travailleurs handicapés, pour aussi les demandeurs d'asile, les demandeurs d'emploi. Pour ce qui est des jeunes, il y a aussi le pass région pour les lycéens où il y a une somme allouée pour passer le PSC1. Des sous.
C'est super intéressant ça à savoir. Si on a à la fois des lycéens ou des parents de lycéens qui écouteront cette interview, sachez-le. Rappelez dans quel dispositif est-ce que c'est ça?
C'est le pass région.
Le pass région, d'accord. Qui est donc une espèce de c'est une espèce de chéquier donc qui est donné au.
C'est une carte sur laquelle il y a des réductions. des entrées gratuites, voilà, des cinémas, des musées, etc.
Moi, je suis vieux, le lycée, c'est vieux. À l'époque, nous, c'était des papiers, c'était un chéquier qu'on découpait et qu'on donnait pour des, voilà, des formations, des bons d'achat. Dans des, maintenant, c'est une carte parce que bah, voilà, ils sont beaucoup plus modernes que moi à mon époque. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va faire un petit interlude musical et puis on se retrouve juste après avec Laurent et Gauthier. Bonne écoute sur Radio RKS.
Yeah.
De retour sur Radio RKS 97FM ou RadioRKS.fr, toujours avec Laurent et Gauthier de la Croix-Rouge. On va continuer cette petite interview qu'on a commencée avant cette interlude musicale de qualité. On parlait de secourisme, on parlait de formation. On va parler d'urgence un petit peu, puisque tout à l'heure Gauthier nous l'a évoqué. Il y a d'un côté le SAMU social, de l'autre le secourisme, et puis au milieu, à la croisée de ces deux chemins, il y a l'urgence, qui est un petit peu la mission commune de tous les volontaires et bénévoles de la Croix-Rouge. Du coup, on va en parler un petit peu plus. Gauthier, vous vouliez évoquer certains points en particulier concernant l'urgence, justement, à la Croix-Rouge.
Ah oui, l'urgence à la Croix-Rouge, c'est quelque chose de très important, puisque c'est lié à notre histoire. Avant, on présentait les événements tragiques anciens, l'attentat du RB, l'attentat de la rue des Rosiers, etc.
Bien sûr.
Aujourd'hui, encore malheureusement, on a des exemples plus récents, hein, des attentats de Paris en 2015. Mm-hmm. Ce sont des sujets sur lesquels la Croix-Rouge s'est positionnée depuis toujours pour, mm-hmm. Pour aider. Et cette identité, on y tient. Parce que c'est un sujet sur lequel les gens veulent être acteurs. On s'en rend compte à chaque fois.
D'accord.
Après des attentats, après des événements particuliers, des choses beaucoup plus communes aussi. Si on parle des plans grand froid, par exemple,
quand on
met à l'abri dans des gymnases des populations fragiles, bien, les gens ont envie de s'investir là-dedans.
Mmh.
Et on tente évidemment d'y répondre à chaque fois. À divers échelons. On tente de former les volontaires pour ça, avoir des situations difficiles.
Mmh.
C'est quelque chose de très enrichissant et c'est quelque chose qui nous permet de nous montrer autrement.
Mmh.
Aujourd'hui, on est en plein dans cette situation. Vous en avez parlé avec Lucien et Véronique du SAMU social pour des publics précaires, publics sensibles. Nous avons la même chose puisqu'on est dans un contexte sanitaire compliqué.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Évidemment. et là-dessus, la Croix-Rouge est aussi positionnée. Pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'opérations. La Croix-Rouge a participé à des transferts interhospitaliers, aux transferts TGV notamment.
Mm-hmm.
Ça pour des opérations nationales. Et au niveau de l'unité locale de Grenoble, au niveau du département de l'Isère, nous avons aussi été actifs là-dessus, puisque nous avons mis à disposition du SAMU nos propres ambulances pour venir aider les sapeurs-pompiers, pour venir aider le SAMU, afin de répondre à cette sollicitation beaucoup, beaucoup plus importante que d'habitude.
Oui, parce que c'est à préciser qu'à Grenoble, en plus, il y a eu pas mal de transferts sur le CHU, si je dis pas de bêtises, en réa, parce que sur le premier confinement, en tout cas, et la première vague, on va appeler ça comme ça, de Covid, Grenoble a été une ville relativement épargnée en comparaison à d'autres territoires. Il y a eu pas mal de transferts sur le CHU de Grenoble qui avait moins de difficultés qu'à l'heure actuelle, de toute évidence, hein, puisque la deuxième vague à Grenoble est beaucoup plus meurtrière et dangereuse que la première, même si elle l'était déjà, en l'occurrence. Du coup, la Croix-Rouge aussi intervient sur de l'aide logistique, pour le coup. Là, on parle d'aide logistique, sur près d'ambulances, etc. On est vraiment dans l'aide matérielle, quoi.
Oui, tout à fait. Le slogan de la Croix-Rouge, il y en a eu plusieurs que vous connaissez, et récemment encore changé, mais c'est... on disait « préparez-vous à être prêt », mais c'est aussi « préparons-nous, nous-mêmes, la Croix-Rouge, à être prêt à tout ça ». Et c'est ça, cette culture de l'urgence, sans cesse se préparer, sans cesse se former, sans cesse s'entraîner, afin de répondre au mieux à des sollicitations qui sont toujours exceptionnelles. On est toujours surpris, à chaque fois, malgré tous nos plans, malgré notre documentation, malgré notre formation. Et c'est ce qui fait que on a des volontaires particulièrement actifs là-dessus, parce qu'on sait qu'il peut se passer des choses.
Non, voilà, alors c'était la question que j'allais poser, parce que du coup, voilà, toujours prêt à aller agir, etc., parce que c'est le propre de l'urgence, c'est sa notion un peu exceptionnelle, imprévue, en tout cas. On parlait d'attentat, vous parliez d'attentat tout à l'heure. On s'y attend bien évidemment pas, hein. C'est toujours, on se le prend de plein fouet avec toute la tristesse et la colère que ça peut amener. Du coup, comment est-ce que concrètement, ça se passe, voilà. Est-ce qu'il y a toujours, il y a des espèces de cellules de crise qui sont toujours prêtes, ou c'est vraiment tout le monde est toujours prêt, on prend son téléphone, on appelle les volontaires, les bénévoles, il s'est passé ça, vite, 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 on a besoin de X personnes là, Y personnes ici, comment est-ce que ça se passe ça?
Oui, vous répondez un peu à la question finalement, et c'est à peu près ça. C'est à peu près ça dans les grandes lignes. Puisque la Croix-Rouge dispose de numéros d'urgence, de numéros de cadre de permanence, qui vont déclarer leur disponibilité et répondre au téléphone 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
D'accord, donc une espèce d'astreinte. Quoi. Voilà,
c'est... Exactement. Ouais. Okay. Cette astreinte, elle a pour but de répondre à nos partenaires. Mm-hmm. À nos partenaires qui peuvent être une ville, qui est une commune, ou bien, évidemment, la préfecture, le SAMU, les sapeurs-pompiers. Avec qui l'enjeu, ça va être de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire.
Organiser, quoi.
Tout à fait. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons connu des situations d'urgence à Grenoble depuis des années et des années. On a réussi à nouer des liens de confiance et la Croix-Rouge, dans mon secteur, mais dans d'autres bien entendu, a été reconnue pour ça. Et depuis maintenant 2 ans, avec le service de sécurité civile de la ville de Grenoble, nous avons entamé un partenariat afin d'établir une convention avec eux, qui devrait passer en délibération au conseil municipal mi-décembre. Ce travail, il a commencé par des choses toutes bêtes, c'est que nous avons fait une conférence avec le SDIS 38 pour expliquer qui étaient les partenaires de l'urgence. Les sapeurs-pompiers sont forcément actifs dans l'urgence, mais nous aussi. Parce que quand il y a une situation d'urgence, il faut appeler les sapeurs-pompiers. C'est eux qui ont géré là tout de suite à l'instant T.
D'accord.
La Croix-Rouge, c'est peut-être pas forcément le domaine... où elle se sent le mieux, puisque nous avons des volontaires, quelques bénévoles sont disponibles tout le temps, à peu près, mais à un instant T d'une catastrophe, quelle qu'elle soit, on ne peut pas toujours répondre. Par contre, on peut arriver justement après, avec de gros moyens, avec beaucoup de bénévoles, capables de s'engager dans la longue durée. D'accord. Là où du coup, les sapeurs-pompiers vont devoir se retirer progressivement, puisqu'ils ont toute la partie secours du quotidien.
Bien sûr.
On a tendance à dire de manière un petit peu rigolote que voilà, s'il y a un incendie à un endroit, on ne peut pas envoyer tous les pompiers, sinon qui va s'occuper du malaise de notre voisine un petit peu âgée, forcément.
Par exemple, c'est parlant comme exemple, je trouve.
Exactement. Donc la Croix-Rouge, elle intervient particulièrement là-dessus. Et ces conventions, eh bien, elles ont pour but de dire, OK, notre numéro de téléphone, c'est ça. Vous pouvez appeler n'importe quand, vous nous dites ce dont vous avez besoin. Nous, on va dire, dans un délai d'une heure, on peut mettre en place ça. Dans un délai de 2 heures, on peut mettre en place ça.
Bien sûr.
On va dire qu'on peut vous mettre tel véhicule, tant de secouristes, etc.
D'accord.
De manière raisonnable. C'est un travail très long. Là, ça fait plus de 2 ans qu'on est là-dessus.
Ah oui.
Pour se mettre d'accord, pour dire, OK, on est en capacité de faire ça. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. La Croix-Rouge n'ira pas éteindre un incendie à la place des sapeurs-pompiers, bien entendu.
Jusque-là, ça se tient.
Ça se tient. Mais c'est important de le rappeler.
C'est important de le rappeler, en effet.
Donc ça, voilà, c'est un des exemples les plus concrets. C'est ce travail de préparation qui passe avec les institutions. Parce que si elles ne nous connaissent pas, si elles ne nous font pas confiance, si on ne peut pas leur montrer en fait, de quoi on est capable, on sera du coup pris au dépourvu.
Oui, bien sûr.
Le contexte sanitaire a un petit peu précipité les choses aussi, a donné envie à beaucoup de communes de conventionner de ce type-là. Donc maintenant, on a beaucoup de sollicitations parce qu'ils se rendent compte qu'on a été capable de répondre à leurs demandes.
Bien sûr.
Les Grenoblois ont pu nous voir en masse, si j'ose dire, pendant la distribution des masques de la ville de Grenoble.
D'accord.
Puisque en plusieurs jours, c'est près de 150 bénévoles qui ont été mobilisés pour aider la ville à distribuer ses masques. C'est plein de petites choses comme ça.
Petites. c'est humble, mais petites. J'imagine qu'autant en termes organisationnels que logistiques après à mettre en place, dis donc, en 2 jours, ça doit être du boulot. On ne doit pas dormir beaucoup, je pense. sens.
Et nous sommes là pour ça.
Laurent me fait un nom de la tête en fermant les yeux de façon très très philosophique. Oh non, on n'a pas beaucoup dormi. Non, j'imagine.
Exactement.
Blague à part, ça doit être un sacré boulot.
Mais ce qu'il faut bien comprendre dans l'urgence, Gauthier l'a dit plusieurs fois, c'est que tous les bénévoles de la Croix-Rouge peuvent être mobilisés sur ces missions d'urgence. C'est vrai que quand on parle d'urgence, on pense tout de suite à une ambulance qui fait pimpon et qui va sauver les gens. Il n'y a pas que ça. Et la Croix-Rouge, on est beaucoup reconnus sur tout ce qui est soutien, par exemple, aux populations, pour le soutien psychologique, pour l'accompagnement, la lutte contre l'isolement. Et par exemple, pendant la période actuelle, la mission est gérée par l'urgence, entre guillemets, de la Croix-Rouge, mais elle se résume beaucoup à de la lutte contre l'isolement et à des actions plus sociales.
Ouais.
L'urgence, il y a une grosse partie qui est faite par les secouristes sur le secours à personne, mais il y a aussi une très grande partie qui est gérée par l'ensemble des bénévoles sur d'autres actions. Par exemple, pendant le premier confinement, on a pu aider les EHPAD. Pendant le premier déconfinement, pardon, on a pu aider les EHPAD pour faciliter les visites des familles auprès des résidents. C'est des actions qui peuvent être menées par les secouristes, mais aussi par l'intégralité de nos bénévoles.
Ouais.
D'accord. Et c'est la force de la Croix-Rouge, c'est d'avoir un vivier très large de bénévoles pour des actions très différentes pendant l'urgence.
On va le rappeler parce que je crois qu'on ne l'a pas fait sur cette interview-là. C'est, là, sur Grenoble, c'est combien de bénévoles la Croix-Rouge ? Tout confondu, hein, absolument tout domaine confondu. Vous avez une idée ?
Dans les chiffres de notre unité locale, on est environ 500.
Ouais.
Chiffre qui ne veut pas dire grand-chose forcément.
Ouais. L'engagement n'est pas le même entre ces 500 personnes, j'imagine, de toute façon.
Exactement. On a un vivier de bénévoles actifs qui participent concrètement aux actions de plutôt 250 personnes.
D'accord. Très bien. Ça donne un bon échantillonnage. C'est vrai que du coup, 150 personnes mobilisées en deux jours pour la distribution des masques, ça fait plus de la moitié de l'effectif très actif de l'association qui se sont rendus disponibles. C'est quand même pas rien, voilà, c'est assez parlant.
C'est l'occasion aussi pour nous, du coup, de remercier plusieurs bénévoles spontanés qui ont proposé de nous aider pour, par exemple, cette distribution de masques. D'accord. Des bénévoles qui nous ont rejoints pour cette action-là, puis qui ont continué dans la Croix-Rouge, qui maintenant deviennent secouristes, maintenant font des maraudes.
Ah oui, d'accord, ça a été leur
porte d'entrée
dans l'association, et puis finalement, ça les a bien bottés, et ils continuent, quoi. C'est super intéressant, hein. Comme quoi, voilà, amis auditeurs, amis auditrices, hein, ça peut commencer comme ça, et puis on peut trouver une vraie vocation dans la chose. Avant de glisser tranquillement vers la gestion de la situation actuelle, hein, avec la crise sanitaire, on va revenir simplement sur une spécificité du territoire grenoblois en parlant de secourisme, parce qu'on est quand même dans une zone où on a des grosses zones industrielles dites à risque, hein. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que dans la partie secourisme de la Croix-Rouge qui est pris en considération? Est-ce que ça donne lieu à des formations peut-être un peu plus spécifiques pour les bénévoles et volontaires qui le voudraient? Est-ce que ça change quelque chose d'être à Grenoble dans ce bassin?
Alors, ça change quelque chose, effectivement, parce qu'on est une rare ville à avoir tous les risques possibles, imaginables.
C'est pas faux, parce que je parle des risques industriels, mais il y a aussi, les barrages, les inondations, le tremblement de terre, etc. Tout à fait, c'est bien, on peut parler d'un petit peu de tout ça aussi. Allez-y.
Donc effectivement, chaque département, chaque ville a sa spécificité. Quand on parle d'urgence à Grenoble, on pense au plan grand froid, on pense à la neige, qui sont des choses qui arrivent donc régulièrement, effectivement. L'explosion chimique n'arrive pas régulièrement, c'est un risque, néanmoins, qui est possible. Là-dessus, la formation des secouristes volontaires ressemble à celle des sapeurs-pompiers.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose en ce qui concerne le domaine du secours à personne, qui est un volet donc, que nous avons en commun. Nos secouristes volontaires ont les mêmes compétences, la même formation qu'un sapeur-pompier.
D'accord.
Dans ce volet-là de secours à personne, il existe des modules sur ce qui concerne les brûlures chimiques, ce qui concerne les intoxications. Donc, nos secouristes sont formés à cela, à le détecter, à agir pour protéger la population, pour la secourir, avec des moyens spécifiques aussi pour les secouristes de se protéger de ce risque en partie. Mais lors de ces modules, ce qu'on souligne toujours, c'est que personne n'est un super-héros. Il ne s'agit pas de se jeter dans les flammes ou dans le nuage toxique pour aller sauver son prochain, même si c'est forcément très compliqué. C'est un choix auquel les secouristes doivent se confronter. Ce sur quoi on insiste, c'est qu'on agit alors en collaboration avec les sapeurs-pompiers qui, eux, ont la maîtrise de ce risque niveau technique. Nous faisons du secours à personne, mais nous ne nous occupons pas du risque technologique. Concrètement, c'est déjà arrivé sur, en tout cas, des entraînements qui ont été mis en place avec le SDIS 38, dans lequel on a bien observé que la Croix-Rouge gérait une autre partie. Grosso modo, les pompiers s'assurent que le risque est minime, ils sortent les gens et la Croix-Rouge s'occupe derrière d'aider ses victimes, mais aussi d'aider les sapeurs-pompiers eux-mêmes. Il faut savoir que si on parle d'incendie, c'est quelque chose d'extrêmement physique pour un sapeur-pompier. Il ne peut pas éteindre un feu pendant 10 heures d'affilée, qui va avoir lui aussi besoin de se reposer. Et la Croix-Rouge agit aussi parfois là-dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des cellules spécialisées pour permettre aux sapeurs-pompiers de se reposer, de se réhydrater, de manger, etc.
Bien sûr.
En plus d'aider les victimes. Voir, et c'était aussi un très gros morceau pour nous, les impliquer. C'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas forcément subi directement la catastrophe, ils ne sont pas forcément touchés, n'ont pas forcément perdu leur maison ou un proche, mais ils ont vu, ils ont assisté à quelque chose de choquant, de troublant pour eux.
Traumatisant. Potentiellement traumatisant, en tout cas.
Et ils vont avoir besoin d'une aide psychologique, d'un soutien. La plupart des personnes ont les ressources psychologiques pour s'en sortir, mais parfois, prendre le temps avec un bénévole, d'échanger quelques mots autour d'un café, ça fait jamais de mal.
Puis c'est important de le rappeler, hein, on l'avait déjà évoqué lors de la première interview pour le SAMU social, c'est justement à la fois le regard des gens qui est à changer, mais c'est aussi tout le traitement psychologique qui va avoir lieu en aval, donc qu'on parle d'isolement social, mais qu'on parle d'éléments traumatisants, d'événements potentiellement traumatisants auxquels on pourrait être confronté. C'est très important. Moi, c'est un truc qui me parle beaucoup et c'est quelque chose sur lequel on a peut-être pas forcément mis suffisamment le doigt et suffisamment appuyé ces dernières années, décennies. Ça commence à changer un petit peu et je trouve que c'est bien que la Croix-Rouge pousse un petit peu dans ce sens-là, parce que ça paraît rien comme ça, mais non, tout le monde n'est pas équipé pour faire face à une catastrophe, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit du terrorisme ou qu'elle soit l'incendie de sa maison, par exemple.
Voilà. Exactement.
Très bien. Eh bien, écoutez, on avance, on dit plein de choses très intéressantes. On va quand même venir à l'élément qui fâche, qui est cette fichue année 2020. ce 7, alors je crois qu'il faut dire, c'est au féminin maintenant, Covid-19. Maintenant, il faut dire 7 fichue Covid. J'imagine que pour le volet secourisme de la Croix-Rouge, ça a dû demander des adaptations, ça a dû changer des choses, ça a dû en empêcher certaines. Et puis ça a dû créer toute une nouvelle activité, ça a déjà été évoqué un petit peu tout à l'heure. Du coup, cette année 2020 avec cette Covid, comment ça s'est passé chez les secouristes de la Croix-Rouge ?
Ça s'est passé brutalement, évidemment.
Ouais.
Comme je le disais, notre activité principale, c'est donc de faire des DPS. C'est ce pourquoi les volontaires viennent, pour venir en aide sur des événements festifs particuliers. Donc évidemment, rapidement, on comprend qu'avec cette crise, tous ces événements se sont arrêtés. Se sont arrêtés aussi pour les secours.
Bien sûr.
Ce qui entraîne deux choses très concrètes. La première, c'est un manque dans nos finances. Finances qui ne reviennent pas évidemment aux volontaires, hein, mais qui reviennent à notre association.
Les frais de fonctionnement.
Exactement.
C'est le nerf de la guerre. Hein,
c'est ça. C'est moins d'argent pour payer nos locaux, pour payer nos prêts, pour payer toute l'aide alimentaire, etc. Pour payer l'essence des véhicules qui font des maraudes tous les soirs, etc. C'est à ça que servent les revenus de nos postes de secours. L'autre chose, et il faut le dire, mais parfois ça étonne un peu les gens, mais qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à vouloir venir faire des pansements, venir faire des immobilisations, pourquoi est-ce que des gens ont un peu le goût du sang, on va dire. C'est pas pour ça, c'est simplement qu'ils ont envie d'aider. Ils ont envie d'aider d'une manière, ils ont envie de mettre en pratique la formation qu'ils ont passée. Formation qui, pour les secouristes, dure plus de 2 semaines. Deux semaines sur plusieurs week-ends, donc, puisqu'évidemment, les gens travaillent, les gens font des études, les gens ont une vie, etc. Cet investissement, ils ont envie de s'en servir, de s'en servir pour aider. Et du coup, forcément, si ces événements sont annulés, eh bien, ils ne peuvent plus réaliser leur volontariat, ce pourquoi ils sont venus à la Croix-Rouge.
Bien sûr.
Ce qui a entraîné une démotivation pour certains de nos volontaires à ne plus pouvoir faire cela. Évidemment, on a pu faire plein d'autres activités, mais qui n'étaient pas forcément ce pour quoi ils voulaient venir. Donc, ouais. Ils ont fait, par sens du devoir envers leur association, envers ce qu'ils croient. Mais pour la plupart, c'était du coup une période assez difficile. Il a fallu prendre des nouvelles de nos secouristes, savoir s'ils allaient bien, savoir s'ils géraient ce confinement, ce déconfinement, ce reconfinement, etc. Ça, voilà, c'est un élément sur lequel je voulais vraiment insister parce qu'on se soucie, nous, en tant que responsables de nos volontaires. On est là pour les aider à s'accomplir là-dedans et à prendre soin d'eux.
C'est très intéressant du coup de commencer par ce point-là en particulier parce que c'est quelque chose, alors moi qui anime d'autres émissions sur RKS, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment dans une émission sur la pop culture que j'anime tous les lundis soirs, c'est cette mise de côté de toute l'activité culturelle, donc là où peuvent avoir lieu ces fameux DPS de la Croix-Rouge, donc que ce soit des salons, des festivals, des manifestations sportives, des manifestations étudiantes, des choses comme ça. C'est que oui, alors tout ça n'a plus, du coup depuis mars 2020, ça n'a plus même avant, puisqu'il y a eu les différents paliers de moins de 1000 personnes, moins de 500, etc. Donc depuis le début 2020, grosso modo, c'est que ben oui, ils n'ont pas lieu, donc ça met beaucoup de gens sur la paille, mais il y a tous ceux auxquels on ne pense pas que ça affecte, alors que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement aussi, parce qu'il ne faut surtout pas, encore une fois, minimiser cette partie-là de ce que ça fait sur le moral des gens et sur la psychologie des gens. Et du coup, voilà, on se rend compte que même aujourd'hui, la Croix-Rouge, la Croix-Rouge en elle-même, en tant qu'entité, en souffre, mais les bénévoles eux-mêmes qui, comme disait Gauthier, du coup, ont pu venir dans la Croix-Rouge en tant que secouristes pour ce genre d'événement-là, ça leur joue aussi sur le moral. Il y a quelque chose qui se joue même de ce côté-là. Ça, c'est...
Oui, exactement.
Ouais, c'est assez fou quand même. Voilà, écoutez, on va croiser les doigts que on sorte le plus vite possible. Ça fait des mois et des mois qu'on dit ça, mais on va garder espoir malgré tout. Qu'est-ce que ça a changé d'autre, à la Croix-Rouge du côté secouriste, cette situation sanitaire?
Ce qui a changé, c'est un mot que tout le monde a entendu, c'est l'adaptation. Il a fallu nous adapter dans nos locaux, dans nos pratiques. On parlait de se préparer. Nos secouristes s'entraînent chaque semaine.
D'accord.
Pour réviser des gestes pour qui on ne pratique pas tous les jours, contrairement aux professionnels. Donc ces entraînements, on a dû les adapter en rajoutant, comme n'importe qui, les gestes barrières, la protection, les masques. Aujourd'hui, on a dû s'adapter en les faisant par visio. Donc en s'entraînant pas forcément à la pratique des gestes, mais en révisant nos procédures. Et dans notre activité opérationnelle, si les DPS n'ont plus lieu, beaucoup d'autres activités se sont greffées, dont certaines en rapport avec le secourisme. J'en ai parlé lors du premier confinement au travers d'une aide envers le SAMU 38 pour les aider au transfert des patients ou aux interventions à domicile. Aujourd'hui, la situation a un petit peu changé puisque les sollicitations sont moindres et on se rend compte qu'il y a surtout un besoin de soignants, d'infirmiers, de médecins. Néanmoins, nous avons de nouveau été sollicités pour plein de choses et ce sur quoi on doit se préparer. La première des choses, c'est les tests dont tout le monde parle. La Croix-Rouge a reçu la possibilité et la formation qui va avec pour tester sur les tests RT-PCR et les tests antigéniques. Donc formations qui sont en cours auprès de nos volontaires pour mettre en place des centres de dépistage que l'on pourrait mettre au profit des hôpitaux, mais aussi des communes.
D'accord, c'est intéressant, ça c'est très intéressant, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui le sache, ça. Je ne sais pas si ça a été très communiqué. Mais
Alors en Isère, pour l'instant, il n'y a pas eu d'opération comme ça pour la Croix-Rouge. Il est peut-être question qu'elles se mettent en place, donc c'est pour ça qu'on se prépare et qu'on forme.
C'est très intéressant à savoir. Ça.
Mais il y a des centres, par contre, évidemment, en Île-de-France, beaucoup plus, qui sont tenus par la Croix-Rouge ou aussi par d'autres associations de secourisme qui ont reçu les agréments.
C'est déjà en place dans d'autres régions qu'à Grenoble, en tout cas. D'accord, okay, je l'ignorais complètement, ça, pour le coup.
D'accord. Donc ça, c'est une première sollicitation, donc beaucoup plus en rapport avec ce que l'on fait d'habitude, et qui nous permet aussi de relancer beaucoup d'activités de formation auprès de nos volontaires. Il va y en avoir plusieurs ce week-end. Deux sessions vont être faites à l'unité locale de Bourgoin-Jallieu et deux donc à l'unité locale de Grenoble, samedi, dimanche, toute la journée.
D'accord.
Ça, c'était une des premières sollicitations. La deuxième dont nous avons eu écho il n'y a pas très longtemps, et qui devrait se mettre en place à partir de la semaine prochaine, c'est de renforcer les effectifs du SAMU. Nous allons proposer donc de mettre un secouriste et un médecin afin d'intervenir auprès de personnes malades, afin d'évaluer si il faut nécessairement les envoyer à l'hôpital. Ouais. L'hôpital qui est donc surchargé. Il s'agit d'un complément pour être sûr que telle et telle bien personne doit bien être hospitalisée. Ça pourrait être l'occasion aussi de faire des tests directement.
Bien sûr.
Donc ça devrait se mettre en place. Donc ça va nous demander un gros effort, puisque la sollicitation se fait en journée, 7 jours sur 7, etc. Donc entre 8h et minuit, ce qui demande donc un effort pour nos bénévoles.
Bien sûr.
Certains sont disponibles. D'autres un petit peu moins, donc c'est à nous de trouver la bonne organisation, à la fois pour répondre à cette sollicitation d'un de nos partenaires les plus importants, et de trouver une réponse adaptée pour nos volontaires qui ont envie, mais qui ont comme toujours leur vie à côté.
Bien sûr, de toute façon, dans ces interviews, on a rencontré que des associations pour l'instant, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on insiste, c'est... Tout connu que soit la Croix-Rouge et l'aura que peut avoir la Croix-Rouge, ça reste quand même une base de bénévolat, de volontariat. Donc ne jetez pas la pierre trop vite, amis auditeurs, amis auditrices, à des associations qui essayent tant bien que mal de travailler, surtout cette année, dans des considérations financières un petit peu particulières et compliquées, n'est-ce pas? Du coup, soyez reconnaissants envers notre tissu associatif, quel qu'il soit, petit ou gros. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points par rapport à cette année 2020 qui serait bon de soulever par rapport à la Croix-Rouge, ou est-ce qu'on a déjà bien fait le tour? Est-ce que vous cherchez toujours des bénévoles et des volontaires?
Alors effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui est une activité qui prend beaucoup de temps à Laurent et moi, d'un côté comme de l'autre.
Ouais.
C'est l'idée de recruter. C'est le nerf de la guerre. Puisque on a des statistiques assez précises là-dessus, mais en moyenne, un bénévole a une durée de vie de 3 ans.
D'accord.
Ce qui peut paraître beaucoup, peu à la fois.
C'est une moyenne.
C'est une moyenne.
Ce qui veut dire qu'il y en a qui restent beaucoup, beaucoup moins, et il y en a qui restent beaucoup, beaucoup plus.
Exactement.
En plus.
Ce qui veut dire qu'en ces 3 ans, il faut que ça soit profitable pour l'association et puis profitable pour le volontaire. Dans les volontaires que l'on recrute, que l'on rencontre quand on fait des journées d'information, quand on va à la rencontre du public pour parler de la Croix-Rouge, on se rend compte souvent que les gens ont très envie, mais ont du mal à estimer le temps que ça prend, du mal à estimer l'engagement. On essaie de leur répondre en disant ça vous prend tant par journée, tant par soirée, etc. À peu près. Mais tout ça, c'est des éléments pragmatiques qu'il faut avoir. Mais ce que je voulais évoquer, c'est avant tout de dire, quand on a cette idée-là, il ne faut pas s'arrêter à ça. Si je veux dire, vous verrez bien quelle est l'organisation sur place, vous verrez bien ce qui vous fait envie ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie, si ça vous plaît, de vous engager, de faire quelque chose, quelle que soit l'action, vous allez mettre le petit doigt et puis on va vous prendre le bras. Mais... on vous demandera l'autorisation, en tout cas.
Avec le consentement, toujours, c'est important.
C'est sûr. Mais quand ça plaît, quand on arrive à faire ce pour quoi on est venu, on n'en décroche pas. Et c'est un peu l'histoire que j'avais envie de raconter. Moi, je suis dans l'associatif donc depuis plus de 10 ans. J'ai commencé en région parisienne avec cette idée assez simple au départ. Que j'en avais assez en fait de ne pas vouloir croiser le regard du sans-abri qui est en bas de chez nous, d'esquiver ces gens qui font la manche. Et j'ai eu en fait cette idée d'arrêter cette hypocrisie qui était toute personnelle en fait, je voulais aller leur parler, je voulais les regarder dans les yeux. Et en même temps, on se rend compte que c'est dur de faire ça quand on rentre du boulot, quand on sort d'une soirée, quand on est avec ses amis. Et je voulais trouver un cadre qui me protège et qui m'aide pour aider toutes ces personnes. Et c'est là que j'ai trouvé les associations, c'est là que j'ai trouvé ces uniformes qui sont une vraie protection et qui sont un moyen d'aller vers l'autre. Donc à tous vos auditeurs et à tous les gens qui ont envie, je dis venez essayer parce qu'on a les moyens de vous accompagner. Mmh. On a les moyens de vous faire, de faire en sorte que vous allez être protégé. Que le temps que vous allez donner, eh bien, vous le donnerez à ce moment-là. Mmh. Et c'est ce que je dis toujours aux secouristes conformes. Moi, je ne fais pas dans la rue, je saute pas sur la première intervention que je vois. Je m'assure d'appeler les sapeurs-pompiers, etc. Mais je ne joue pas au sauveteur quand je n'ai pas mon uniforme, quand je n'ai pas mis mes rangers, quand je n'ai pas mon équipe. Parce que à ce moment-là, ben, je ne sais pas faire, en fait. Je sais faire avec la Croix-Rouge, je sais faire dans mon rôle, mais en dehors, non. Et si vous avez envie de donner du temps, c'est à vous de le mesurer. Mais ça va vous plaire. Ça va vous plaire parce qu'on est une équipe avant tout, parce qu'on est des gens qui se connaissent. On est des amis, on fait de très belles rencontres, des rencontres qui n'ont rien à voir avec le milieu professionnel, les études, on rencontre des gens de partout, et ça c'est formidable et ça nous sort, et c'est ce qui nous donne du coup la force d'aller voir des gens eh ben, qu'on n'aurait jamais pris le temps de discuter avec eux, parce qu'ils sont trop différents. Et cette croix qu'on porte, et qu'on porte fièrement avec Laurent et tous les autres volontaires, elle nous permet ça.
Très bien, ma foi, ce sont de bien belles paroles que je vais appuyer, ayant moi-même fait quelques temps de maraude en SAMU social à Grenoble. C'est quelque chose dans lequel voilà, on est. Moi aussi j'ai un peu ce parcours-là de. J'étais un peu dans le travail social, j'avais envie de trouver un cadre, quelque chose, et je ne savais pas par quelle porte y entrer. Bon, c'est trouvé que c'était par le Vinci, en l'occurrence, voilà, il y a quelques années de ça, et que bah, effectivement, on en prend vite goût et que ce cadre, c'est quand même, voilà, on retrouve des gens qui sont dans ce cadre-là, on se sent en sécurité, et bah, voilà, si vous, amis auditeurs, amis auditrices, vous avez cette envie, mais que vous ne savez pas comment faire, bah, voilà, les options sont multiples, mais là, Gauthier vient de nous faire une tirade absolument magnifique, si ça ne vous a pas convaincu, eh ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut, vous n'avez pas de cœur, voilà, je vous le dis. Très bien, très bien. Il nous reste un tout petit peu de temps, je crois. Je vais vous laisser libre cours à la parole. Si vous voulez peut-être un peu rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver, où est-ce qu'on peut vous contacter, où est-ce qu'on peut s'informer sur la Croix-Rouge. Peut-être Laurent, c'est un peu le community manager de la Croix-Rouge à Grenoble. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver la Croix-Rouge?
Alors, à plusieurs endroits, notre site internet, bien sûr, 38.croix-rouge.fr. On est assez actif aussi sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à la consulter. On
Et donne une page souvent spécifique à l'antenne de Grenoble, l'antenne 38.
Oui, tout à fait. Alors, même à l'antenne de Grenoble spécifiquement, sur laquelle on met toutes nos actualités, toutes nos demandes aussi de bénévoles, si on a des demandes spécifiques, besoin de financement, etc. Et n'hésitez pas aussi à suivre les pages nationales qui sont aussi très intéressantes, qui relaient l'histoire de la Croix-Rouge en général. On est une seule grosse association, donc c'est intéressant aussi d'avoir des informations sur la Croix-Rouge en général. Et j'aurais envie de dire, venez nous voir en présentiel sur nos postes de secours, mais... dans quelques temps, vous pourrez nous recroiser.
Voilà.
Et on aura bientôt, à cœur de venir discuter avec vous.
Promis, bientôt. Gauthier, un petit mot de la fin, peut-être, pour conclure.
Alors, j'ai beaucoup parlé, du coup.
Mais c'est pas grave, c'était le but, ça tombe bien.
Non, mais j'espère qu'on sortira de cette situation grandie, chacun à notre niveau. La Croix-Rouge essaie. De s'adapter à cette situation. J'espère que chacun dans les départements, dans les villes, vous voyez l'action de ces bénévoles qui tentent et qui ne se découragent pas pour faire. C'est notre rôle lors de cette crise. On aura à cœur d'en tirer plein de leçons là-dessus, ce qui a toujours été le cas après des crises majeures. On en tire des leçons pour se préparer, et évidemment l'année d'après c'est un autre truc, mais c'est le jeu, ça.
C'est le jeu, ouais.
Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer nos actions. En tout cas, on est bien parti pour, et on n'est pas prêt de lâcher l'affaire dans laquelle on s'est engagé.
Très bien, ben, ma foi, encore une fois, une belle façon de conclure cette interview. Laurent et Gauthier, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accueillis une fois encore.
Merci à vous.
Merci à vous.
Amis auditeurs, on espère que cette interview vous aura éclairé, vous aura peut-être donné des envies. On espère avoir réveillé peut-être des vocations ou avoir re-réveillé, parce que des fois ça va, ça vient, et bah peut-être que Si vous avez envie de cadre pour cette envie, eh ben, n'hésitez pas à contacter la Croix-Rouge. C'était Florian Eketil sur Radio RKS, 97FM ou radio-rks.fr. Vous retrouverez cette interview en podcast sur le site radio-rks.fr. Nous vous souhaitons une très très bonne journée et à très bientôt sur Radio RKS.